Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, page 96, Daf Tzadik Vav. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara poursuit, elle dit Rava Savala Rabbi Yonatan. Rava, il pense que la Braïta qui traite des deux psukim, ou les Braïtot, elles ont pour auteur Rabbi Yonatan. Donc, Matares l'écrae, Rabbi Yonatan. Donc, il va interpréter les psukim selon la Shita, l'opinion de Rabbi Yonatan. Comment ça? Im ba'alav, immo, lo, yeshalem. Le deuxième pasuk nous dit que si le propriétaire, le prêteur, il est associé à, avec son objet, au service de l'emprunteur, lo, yeshalem, l'emprunteur n'aura pas à payer. Mashma. Et il faut comprendre, d'après Rabbi Yonatan, d'été le travail où? Ou mashma, nami, d'équité, bechada, valité, bechada, pas tout. Il faut comprendre que la dispense du fait de la présence du prêteur, du propriétaire, au service de l'emprunteur, dont nous parle le pasouk, cette présence-là, elle revient aussi bien sur les deux phases que sur une phase. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que Rabbi Yonatan, lui, il était d'avis que dans toute la Torah, quand on voit un vav, il ne faut pas comprendre et, il faut comprendre ou bien. Ainsi que il avait déduit de la parasha de Kilaïm, où là-bas, la Torah, elle voulait nous faire comprendre qu'on ne doit pas labourer avec le taureau et l'âne en même temps, le tachaosh, bachor, bachor, yardav. Et là-bas, la Torah va ajouter Yartav en même temps. Ça veut dire que lorsqu'elle veut parler en même temps, elle le dit. Et si elle ne dit pas en même temps, ça veut dire que le va veut dire ou bien. Et donc ici également, les deux phases dont nous parle la Torah, le chiyish al ish me'im re'ehu, c'est la première phase du prêt, ve nishbar umet, et il est arrivé un accident. L'animal s'est brisé ou il est mort. Il faut comprendre que ça parle de l'une ou de l'autre phase que le propriétaire, le prêteur est avec l'emprunteur, au service de l'emprunteur, en même temps que son objet. Dans l'une ou l'autre des deux phases, déjà, lo yeshalem, du moment que Baal Avimo, il est avec lui, l'emprunteur sera dispensé de rembourser. Uktiv, seulement il est également écrit le premier pasuk, Baal Avimo, shalem yeshalem, que si le prêteur n'est pas au service de l'emprunteur. Dans ce cas-là, l'emprunteur devra rembourser. Et là-bas, mashma aussi, l'ité be travaillou, mashma nami, équité be chada, velité be chada. Chayav. Là-bas, il faut aussi également comprendre que s'il n'est pas au service de l'emprunteur, dans l'une ou l'autre des deux phases, c'est suffisant pour le rendre chayav. Bien sûr, à plus forte raison, si il n'est pas à son service dans les deux phases, que l'emprunteur devra rembourser. Et donc, le deuxième pasouk nous avait appris que la présence du propriétaire, du prêteur, dans l'une des deux phases, elle suffit à dispenser l'emprunteur de rembourser. Et le premier pasouk nous apprend, au contraire, que s'il n'est pas présent dans l'une des deux phases, l'emprunteur devra rembourser. Il faut donc en déduire qu'il y a une phase importante et une phase qui n'est pas. Donc le malheurat, c'est pourquoi on en déduise, pour nous dire que Aya Imo Beshat Fela, si le propriétaire était au service de l'emprunteur au moment du prêt, En Zachli Yot Imo, le Shat Shmaometa, il n'est pas nécessaire qu'il soit avec lui au moment de l'accident. Mais Aya, Imo, Shat, Shmaometa, si au contraire il était au service de l'emprunteur au moment de l'accident, Zachli Yot Imo, le Shat, Shmaometa, ça ne suffit pas pour dispenser l'emprunteur de rembourser. Il faudra que le propriétaire, le prêteur, soit au service de l'emprunteur au moment du prêt. Alors, la Gemara, elle risque une question, elle dit Ipour Anna.
Pourquoi ?
Peut-être que je vais inverser. Je veux dire que la phase importante, c'est la phase de l'accident. Que si le propriétaire, le prêteur, il est au service de l'emprunteur au moment de l'accident, c'est ça qui dispense l'emprunteur de rembourser. La Gemara répond non, Mistabra, c'est plus logique. Si on a besoin de faire le choix entre le moment du prêt et le moment de l'accident, She'ela Adifa. C'est plus logique de penser que c'est le moment du prêt qui détermine si le propriétaire, il s'appelle Bebalim ou pas, Mishum, Nekam Atila, l'irshuté. Parce que c'est à ce moment-là, au moment du prêt, que l'emprunteur, il fait entrer l'objet ou l'animal dans sa propriété, dans son utilisation. Donc, c'est ce moment-là qui est déterminant. L'agma refuse de dire des rabats, au contraire, peut-être chevoura en état, adifa, c'est peut-être le moment de l'accident qui est le plus déterminant. Sheken hayav beonsin, puisque c'est à ce moment-là que l'emprunteur, il est obligé de rembourser et il s'est engagé à rembourser. La Gemara a dit Ilosh Ela Shura Umeta Mayavid. La Gemara a dit c'est quand même le moment de l'emprunt qui est le plus important. Parce que s'il n'y a pas de prêt, alors forcément, il n'y a pas de moment du dommage où l'emprunteur il se sent obligé de rembourser. La Gemara revient à charge et dit mais d'un autre côté, il a foi en métage, et là, Mayavid, s'il n'y a pas d'accident, alors le fait d'avoir emprunté un objet, ça ne rend nullement l'emprunteur redevable de le rembourser. Donc c'est bien le moment de l'accident qui est déterminant. La Gemara conclut son raisonnement, elle dit non. Afiluachi, she'ela adifa. Malgré tout, c'est quand même le moment du prêt qui reste déterminant. Sheken Hayav Bimzonotea. Parce qu'on voit que l'engagement ou les engagements de l'emprunteur, ils commencent déjà depuis le moment où il a pris l'animal en main. Et depuis ce moment, le moment du prêt, il est déjà redevable de certaines choses envers l'animal. Il doit par exemple le nourrir. Donc, ses obligations envers l'objet ou l'animal emprunté, il commence déjà depuis le moment où il a emprunté. Et c'est certainement le signe que ce n'est pas seulement au niveau de l'obligation de nourrir l'animal que se limite l'engagement de l'emprunteur, mais tous les devoirs, toutes les obligations de l'emprunteur, ils sont groupés, regroupés à ce moment-là, au moment où il prend l'animal en main. Ravachi, lui, il va procéder autrement pour arriver à la conclusion que la phase importante, c'est la phase du prêt. Ravashi Amar. Ravashi dit, Kraaktiv, le premier pasouk du Shoel, il s'exprime comme suit. Chi yish al ish ma'im re'ehu, lorsque un homme il empruntera de son prochain, ça veut dire quoi? Il emprunte de son prochain seulement l'objet de l'animal. Velo re'ehu imo. Au moment de l'emprunt, le re'ehu, celui qui a prêté, il n'est pas au service de l'emprunteur. Puisque c'est ça le sens du pasouk. V'riish al ish me'im re'ehu. Lorsqu'un homme il empruntera quelque chose, me'im re'ehu, de son prochain. Il emprunte quelque chose de son prochain, mais il n'emprunte pas son prochain. C'est ça le sens du pasouk. Et c'est dans ce cas-là que le pasouk poursuit, il dit Venishba Omet, Shalem et Shalem. S'il est arrivé un accident, l'emprunteur devra rembourser. Il est clair du pasouk donc que le moment crucial, important, c'est le moment du prêt. Parce que le prêteur n'était pas au service de l'emprunteur. Si bien que la Gemara demande alors Yahri, mais si c'est comme ça, pourquoi la Torah précise dans le premier pasouk, Be'alav et Naïmo, et dans le deuxième pasouk, Imber Lavimo, Lamali. Pourquoi l'écrire? L'Agma répond, il a Hanar. S'il n'y avait pas eu ces précisions de Bala Ven Imo, Imber Lavimo, s'il n'y avait pas eu ces précisions, j'aurais étudié, j'aurais lu le Passouk sans relever que c'est seulement l'objet qui est emprunté, mais im re'ehu volo re'ehu, et pas le propriétaire lui-même. Pourquoi je ne l'aurais pas relevé? Parce que je me serais dit, c'est ainsi la manière de parler, quand un homme il emprunte de son prochain. Mais maintenant que la Torah met en valeur l'importance de la présence du propriétaire au service de l'emprunteur, et qu'elle me met en valeur qu'il y a une phase qui est importante par le jeu des deux psukim, et qu'elle me laisse le soin de chercher quelle est la phase la plus importante, alors là, en faisant une relecture du pasouk, je suis obligé de noter que l'important, c'est la phase du prêt. Parce que, comme le pasouk dit, « Riish al-ish » lorsqu'un homme il empruntera à quelqu'un, Me'im Rehu, de son prochain. Seulement, la chose est empruntée, mais pas le prochain. Ba'er Rami Bahama. Rami Bahama, il a posé une série de questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Et voici la première. Sha'ala, si il a emprunté un animal, le riva'a, pour s'accoupler avec. Mahou. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Ketchailin chez Bainan. Comme les gens ont l'habitude d'emprunter. On a besoin pour entrer dans le cadre de la parcha du choix de la Torah. Ulachi lo shaile. Et pour faire une avera, évidemment, c'est pas du tout conventionnel. Lo shaile inche. Les gens font pas ça. Et donc, un tel emprunteur, il sera hors paracha. Et donc, il sera dispensé de rembourser, puisque ça s'appelle même pas un emprunt. Odilma ou peut-être, car un mamai. Quelle est la raison pour laquelle l'emprunteur de la Torah doit rembourser en cas de force majeure? Mishum Hana'a, parce qu'il tire un profit. Vahainami, et celui-là aussi, même si c'est une avéra, même si c'est pas conventionnel, même si c'est pas habituel, Hana'a, il a quand même un profit de cela, et donc peut-être qu'il devra quand même rembourser les cadeaux de signes et quatre forces majeures. Deuxième Sheila. Sha'ala les ra'odba. Si on a emprunté un animal juste pour faire, pour paraître, pour faire genre qu'on est aisé, qu'on est riche, mahou, qu'est-ce qu'il faut penser? Mamona ba'inan. Est-ce que l'important c'est d'emprunter un capital ha'ika? Et là, quand on a emprunté un animal juste pour donner l'impression qu'on est riche, alors on a quand même emprunté un capital, Odina ou peut-être. Mamona deitle hana'a mine bainan. Ça ne suffit pas d'emprunter un capital. Il faut en plus qu'on en tire un réel profit. Et dans ce cas-là, l'ika, on ne peut pas dire que il en tire réellement un profit, puisque l'intérêt qu'il tire de l'emprunt d'un animal pour montrer qu'il est riche, il est purement du domaine de l'imagination. Et pour un profit comme ça, aussi subjectif, la Torah n'a peut-être pas prévu que l'emprunteur il s'engage à rembourser même les quatre forces majeures. Troisième problème, Sha'ala, s'il l'a emprunté maintenant, la sotba pour faire avec l'animal, parod mish pruta, pour un profit moindre que la valeur d'une pruta, c'est-à-dire la valeur minimum à laquelle l'homme il accorde de l'importance. Mahou, qu'est-ce qu'il faut en penser? Mamona bainan veika, est-ce que l'important c'est d'emprunter un capital? Et là on emprunte un capital. Odima ou peut-être kolpachot mi pruta loklum. Peut-être que lorsqu'on en tire moins que la valeur d'une seule pruta, ça s'appelle pas emprunter. Emprunter, ça veut dire pour utiliser au moins à concurrence d'une valeur supérieure chez les pruta. Quatrième question. Sha'al, c'était parot. Si on admet que emprunter pour moins que Shavé Prouta. La Torah n'a pas prévu que l'emprunteur il s'engage à rembourser les 14 singeurs. Maintenant, on va se poser la question si il a emprunté deux animaux achetés par autre. Seulement, la Asot Bahen Peruta, pour profiter, pour tirer un profit de ces deux animaux, en tout et pour tout, juste la valeur d'une Peruta. Alors, Mahou, qu'est-ce que vous pensez? Miemrinan, est-ce qu'on va dire Zil, Batar, Shoel, Omashil? Va d'après l'emprunteur et le prêteur. Veika. Et là, il y a la valeur d'une Shavé Prouta que le prêteur met à la disposition de l'emprunteur. Odinao peut-être. Zilbatar Parot. Peut-être qu'il faut aller d'après chaque objet emprunté. Le Chol Hadal Hada. Nika Mamona. Et pour chacun des deux objets, ici c'est chacune des deux vaches qui est empruntée, comme en tout et partout il a profité l'emprunteur que Shavé Prouta. Il se trouve que de chaque vache, il n'a profité que moins que Shavé Prouta. Et donc, chaque capital, il a été utilisé pour moins que Shavé Prouta, et pour un tel profit aussi minime, la Torah n'a peut-être pas prévu que l'emprunteur il rembourse les quatre forces majeures. Cinquième Shaila, Sha'al Mishutafin. Si on a emprunté un animal qui appartient à deux associés, Nisha'al Lo et Had Mehen. Et l'un des deux associés s'est mis au service de l'emprunteur. Mahou. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Kulo Be'alav Bainan. Est-ce que l'ensemble des propriétaires doit se mettre au service de l'emprunteur pour que ça s'appelle une Shaila Be'alim Valika? Et dans notre cas, nous n'avons pas l'ensemble des deux associés qui s'est mis au service de l'emprunteur. Et donc l'emprunteur reste responsable de tous les engagements qu'un emprunteur peut avoir vis-à-vis d'un objet. Odilma, ou peut-être. Mais Aou Palga Didé, Miha, Miftar, peut-être que de la moitié du capital qui appartient à l'un des associés, celui qui s'est mis au service de l'emprunteur, au moins pour cette moitié Miftar, l'emprunteur devrait être dispensé de rembourser, puisque pour cette moitié, ça s'appelle Sheila Beba'alim. Sixième problème. Shutafin Shishalou. Si maintenant, deux associés qui avaient besoin de labourer, par exemple, un champ, ils ont emprunté un même animal pour labourer le champ commun. Benish Al Lehad Mehen. Et le propriétaire, il s'est mis au service de l'un des deux emprunteurs, l'un des deux associés, par exemple, pour faire la peinture chez lui. Ce qu'on a appris déjà que Baalaveimo, ça veut dire que le propriétaire, il est au service de l'emprunteur, mais pas forcément pour le même travail que son animal. Mavou, alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Kulo Shoel Bainan, est-ce que la dispense que la Torah prévoit pour l'emprunteur, c'est lorsque tout l'emprunteur de cet objet, il a pas seulement l'objet emprunté, mais le propriétaire à son service, Velika. Et dans ce cas-là, c'est pas tout l'emprunteur, puisqu'il n'y a qu'un des associés seulement qui bénéficie des services du propriétaire. Odinao peut-être, Behari Palga, au moins pour cette moitié des Shailés qu'il a emprunté, l'un des deux associés. Mihat Miftar, au moins pour cela, il devrait être dispensé. Autre problème maintenant. Sha'al Me'aisha. Venish'al Ba'ala. S'il a emprunté un objet d'une femme et que son mari il se soit mis à la disposition de l'emprunteur. Ou bien, Isha Sha'ala. Imaginons qu'une femme elle a emprunté un objet. Venish'al le Baal, et que le propriétaire se soit mis au service de son mari. Mahou, qu'est-ce qu'il faut en penser? Kinyan Perot et Kinyan Haguf Damé. Celui qui a l'usufruit, qui a le droit d'utiliser un objet ou un terrain, C'est comme si, pendant ce laps de temps où il dispose de l'usufruit de l'objet du terrain, c'est comme si, pendant ce laps de temps, il est propriétaire. Et dans ce cas-là, dans la première chouéla qu'on avait posée, où il avait emprunté l'objet d'une femme, et que son mari se soit mis à la disposition de l'emprunteur. Alors, comme on sait que, par les lois du mariage, le mari, il a le droit d'utiliser les biens qui appartiennent à la femme, qui sont à la disposition du couple pendant toute la période du mariage. Et c'est donc le mari qui en a l'usufruit, et ça revient comme si le mari, qui est le propriétaire pendant la période du mariage, il avait prêté l'objet et il s'était mis au service de l'emprunteur. Et donc, ça s'appellera une chouéla de Baalim, pour laquelle l'emprunteur sera dispensé. Oh non, ou peut-être que non. Celui qui a Kinyan Perot, qui a l'usufruit, il reste étranger au capital, qui continue à appartenir à la femme. Et donc c'est comme si c'est un propriétaire qui prête un objet, et c'est une tierce personne qui se met au service de l'emprunteur. Donc bien évidemment, ça ne s'appelle pas une chouéla de Baalim. Et l'emprunteur, il reste complètement responsable vis-à-vis de cet objet. Une autre chouéla maintenant a parlé Rabbi Nahum Ben Ravashi. Il lui a dit Haomer lishlocho tse vehishael li. Celui qui dit à son ami va et prête service à ma place en mon nom. Et une partie avec la vache qui m'appartient, ensemble aller rendre service à monsieur Untel. Mahou, qu'est-ce qu'il faut penser? Mais Alav Mamash Bainan, est-ce qu'on a besoin du propriétaire en personne au service de l'emprunteur pour que ça s'appelle She'elah Bebaalim, Velika? Et là, ça n'est pas le cas. Odina ou peut-être Shelucho She'elah Adam Kemoto. Comme dans toute la Torah, on sait que le shliach, l'envoyé, il est habilité à représenter son mandateur. Donc on pourra considérer que l'envoyé, il représente le propriétaire auprès de l'emprunteur. Et donc c'est comme si le propriétaire, il était présent avec l'objet qu'il a prêté auprès de l'emprunteur, et ça s'appelle Shaila Bebalim. Amarle, Ravacha, Maré de Ravavia, il lui a dit, Ravashi, Baal, pour ce qui est du problème du mari avec sa femme, Plouta de Rabbi Yohanan Resh Lakish. Il apparaît que c'est une discussion entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Et pour ce qui est du chaliar, savoir est-ce que le chaliar il peut représenter le propriétaire pour que ça s'appelle Shalem Balim, c'est une Plouta de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. Comment ça? Baal Plouta de Rabbi Yohanan Resh Lakish, pour ce qui est du mari et de la femme. C'est une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shakish, comme on voit à Deitmar, qu'il a été discuté au Bet HaMidrash, à Mocher, Sadehu, la Chavero, celui qui a vendu son champ à son prochain, le Perot, pour qu'il en exploite l'usufruit. Rabbi Yochanan Omer. Rabbi Yochanan dit, Mevi Vekore. L'acheteur, celui qui a l'usufruit, il a le droit d'amener les bikurim, les prémices de cette récolte qu'il a achetée, ou avec l'amidash, le remettre au Kohanim, mais vive Corée. Et il peut même lire la paracha exactement comme un propriétaire il fait quand il amène ses bikurim. Tandis que Resh Lakish Omer, mais vive Eno Corée. L'acheteur des fruits de la récolte sur pied, il pourra amener, il devra même amener les bikurim, mais il ne pourra pas lire la paracha que chaque propriétaire il a le devoir de lire lorsqu'il amène les bikurim, parce que dans ce texte c'est écrit Hine heveti et reshit peri hadama shenatatali. Voilà, j'ai amené les prémices du champ que tu m'as donné. Et dit Reish Lakish, celui qui a acheté une récolte sur pied, évidemment, il ne peut pas dire la terre que tu m'as donnée. La Gemara s'explique, elle dit, Rabbi Yochanan Omer Mevi Vekore. Rabbi Yochanan dit que l'acheteur de la récolte sur pied, il peut apporter les bikurim et lire la paracha. Il peut dire la terre que tu m'as donnée. Parce que Kinyan Perot, que Kinyan Goudame. Tandis que Reish Lakish, Omer, Mevi Veino Kore. Je dis qu'il peut certes amener les fruits, mais il ne pourra pas dire la paracha où il est question de la terre que tu m'as donnée. Parce que Kinyan Perot, là, que Kinyan Goudame. Pour ce qui est du Shaliach, Plouta de Rabbi Yonatan, Rabbi Yoshia, Betania, comme on voit dans la Braïta. Omer, l'apôtre Fous, celui qui s'adresse au tuteur de sa maison, il lui dit, voilà, Konedarim, c'était Ishti Noderet, toutes les promesses, tous les serments que ma femme va prononcer, Mikan Ad Shavu Miakomploni, depuis maintenant jusqu'à ce que je revienne, de tel endroit, à faire là, je te mandate pour que tu puisses lui annuler, si nécessaire. Veuillez faire là. Et le tuteur, le précepteur, les biens du mari, il a annulé ses vœux. Yachol Yihu Mufarin. J'aurais pu croire que cette annulation, elle est valable. La Torah dit, Isha Yakimenu, il n'y a que le mari qui peut valider les vœux, Isha Yakimenu. Et il n'y a que son mari, il peut les annuler. Au niveau de Rabbi Yoshia, et on voit donc que d'après Rabbi Yoshia, le fait que la Torah, elle est insistée, elle a dit Isha Yakimenu, Isha Yakimenu, il n'y a que le mari qui est habilité à confirmer ou annuler les vœux de sa femme. Ici aussi, le fait que la Torah elle écrit plusieurs fois Be'alav, Emo, Be'alav, Enemo, c'est que la Torah, elle tient à ce que ce soit le propriétaire et lui seul, pas son représentant, pas son mandaté, qui travaille au service de l'emprunteur pour que ça s'appelle Be'alim. Rabbi Yonatan Omer, lui, il pense que de même, Atsinu B'cholam Makom, chez Shulchan Adam Kemoto, dans toute la Torah, on a vu que le chaliar, celui qui est mandaté par une personne, il est habilité à faire tout au nom de celui qui est le mandate. Donc ici également, pour l'annulation, la confirmation des vœux, le chaliar, il sera habilité à représenter le mari et annuler ou confirmer les vœux de la femme de son patron. Et puisque Rabbi Yonatan, il pense que la shlichut est valable dans toute la Torah, ici également, pour les Be'alim, la shlichut sera valable et donc le représentant du prêteur, il sera considéré exactement comme le prêteur lorsqu'il est au service de l'emprunteur au nom du prêteur. Une autre chose là maintenant, Amalé Rav Elish le Rava. Il lui a dit, Armer le Abdo Tse Ve Ishael Imparati. Un patron qui dit à son Evet Kenani, va et rend service à un monsieur Intel avec la vache qui m'appartient. Mahou. Qu'est-ce qu'il faut penser? Qui va aider le mandama, shulucho, shaladam, kimoto? En fait, on peut se poser la question, soit d'après celui qui valide la shlichut, même pour le cas des chambrim. Qui va aider, et on peut se poser la question, également le mandama, shulucho, shaladam, eno, kimoto. D'après celui qui dit que la shlichut n'est pas valable dans le cadre des chambrim. On peut se poser la question d'après celui qui dit que la shlichut elle est valable même pour les shomrim. Et on peut se poser la question suivante. Animile, quand est-ce que la shlichut est valable? C'est valable shliach, uniquement pour un shliach qui est bar mitzvah, qui a les mêmes obligations religieuses que celui qui le mandate. Aval Eved. Mais comme l'évêque Nani, dont on sait qu'il rêve que d'une soit assez chez Nazman Grama, il a les mêmes obligations que la femme concernant le mitzvot. Donc il n'a pas la totalité de mitzvot à accomplir. Et là, par mitzvah, l'eau, peut-être qu'il ne pourra pas représenter son maître, parce que, nous dit Rashi, la validité d'un chaliar pour représenter son mandateur, on l'apprend de la Troumat Maaser, où la Torah nous dit que vous aussi, Yamatem, les Levim, de même que l'Israël prélève la Trouma, vous aussi, les Levim, vous prélèverez la Trouma du Maaser que vous recevez. Et comme la Torah dit Gamatem, vous également, le également qui est en trop, il vient inclure le Chaliar et le Hekesh, la juxtaposition de Atem avec le Gam, vous et votre Chaliar. Elle vient nous indiquer que le Chaliar, il doit avoir les mêmes qualifications que vous pour vous représenter. C'est-à-dire que, en l'occurrence, quand vous avez l'intégralité des mitzvot à accomplir, pour que votre chaliar il puisse vous représenter, il faut qu'il ait ces mêmes qualifications. Et donc, il est possible que le Eved, qui lui n'a pas toutes les obligations d'un homme, mais seulement les obligations d'une femme, peut-être qu'il ne sera pas assimilé à un Atem Gamatem. Quelqu'un qui est comme vous, Odima. Ou peut-être, on peut se demander à l'opposé, qu'afilou le mandama en shlur, shalam kemoto. Même après celui qui pense que, dans certains domaines, la Torah a insisté, comme pour les chambris, moi, elle nous parle de Be'alav, Imo, Be'alav, en Imo. Donc, que la Torah, elle tient à ce que ce soit le propriétaire en personne, et pas un chaliar. Animilé, chaliar. La Torah vient exclure chaliar parce que c'est une autre personne, aval. Mais Eved, l'Eved Nani, dont on sait qu'il y a d'Eved qui a drabo, que par l'artifice que la Torah, elle a conçu concernant l'Eved Nani, que l'Eved Nani, il est le prolongement de son maître, comme la main de son maître. Et donc, il n'est pas seulement un chaliar, mais il est vraiment une partie de son maître lorsque il accomplit quelque chose. Alors qu'il y a de Rabodamé. Alors il est possible qu'il aura le même statut, le même pouvoir de représentation que son maître. Et à ce titre, quand il travaille au profit de l'emprunteur, il dispensera l'emprunteur de tout remboursement. Exactement comme son maître l'aurait fait s'il avait travaillé pour l'emprunteur. Ba'e Rami Bahama. Une nouvelle question maintenant de Rami Bahama. Ba'al Benichse Ishto. Le mari concernant des biens que sa femme elle met à sa disposition pendant toute la période du mariage qu'on appelle Benichse Milog.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Chers auditeurs, nous poursuivons ici la lecture rapide du 8e perek de la Guémara Baba Metzia, en espérant que cela puisse nous servir, Bezrat Hashem, pour une étude future plus approfondie. Lecture effectuée par Eléo Seba. On tourne maintenant la page. On aborde Amud Bet du Daf Tzadi Vav. Shoel Have ou Socher Have. Quel statut les Chachamim ont accordé au mari sur les biens qu'il a le droit d'utiliser appartenant à sa femme? Est-ce que ils l'ont considéré comme un Shoel, comme s'il empruntait avec l'autorisation de sa femme les biens de sa femme, ou socher? Est-ce qu'ils l'ont considéré, le mari, comme quelqu'un qui paie pour utiliser? Et pourquoi ça? Parce qu'en réalité, le droit pour le mari d'utiliser les biens de sa femme, il n'a pas été accordé sans retour, sans compensation. C'est parce que le mari, il a l'obligation de vendre tous ses biens si c'est nécessaire pour racheter sa femme si elle est captive, que pour faire la bonne mesure, ils ont permis au mari d'utiliser les biens qui appartiennent à sa femme. Amar Rava. Rava, il a dit, de Rabbi Bahama, celui qui a posé la question, le Fum Chofa Shavasta. Plus on est intelligent, plus on est brillant, et plus on est sujet à s'embrouiller. Il dit, Manafchar, quelle que soit l'option que tu choisisses, on arrive à la même solution. Isho El Ave, s'il marie, c'est comme quelqu'un qui emprunte simplement. Alors, chez El Ave Baalim, de toute façon, c'est un emprunt avec le propriétaire, puisque la femme, elle est aussi au service de son mari. Et donc, ce qu'elle prête à son mari, c'est forcément dispensé de rembourser la part du mari, le Gneva, Veda et Ones, comme n'importe quel chez El Ave Baalim. Vei Socher Ave. Si le mari, il est considéré comme quelqu'un qui paye pour utiliser les biens de sa femme. De toute façon, Ave Sreirut Baalim. De toute façon, le mari, il est dispensé de payer puisque c'est une Sreirut avec la présence du propriétaire de la femme. Et donc, qu'il se soit elle ou Socher, quelle importance de savoir s'il est dispensé parce que c'est une Sheil Ababarim ou bien une Sreirut Baalim. Et là, mais alors qu'est-ce qu'on doit dire pour expliquer la Sheila de Rami Bahama qui m'est pas y aller, le Rami Bahama, lorsqu'il s'est demandé d'Agamina, c'est dans le cas où quelqu'un lui a loué, il a payé pour utiliser sa vache, la vache de la femme, Vadan Asba, et ensuite il l'a épousée. Alors, Shoel Ave ou Socher Ave. Là, on peut se demander si les Shoel ou Socher le mari. Shoel Ave, est-ce qu'on va dire que le statut que les Chachamim lui ont donné, c'est qu'il est Shoel? Et donc, c'est un nouveau contrat qu'il commence maintenant qu'il s'est marié avec sa femme. Parce qu'avant, il était Socher et maintenant il est Shoel. Donc, Ati, Sheela, Bebalim, le nouveau contrat où il est Shoel et Shoel Bebalim, puisque la femme est à son service. Et donc, Mafkir Anatsrirut, Shelo Bebalim. Et donc, elle vient déraciner, annuler l'ancienne Srirut, l'ancien contrat qu'il avait avec la femme avant d'être marié. Et qui était un contrat de Srirut Shelo Bebalim. Et maintenant, c'est le contrat de Sheela Bebalim qui est en vigueur. Odilma, ou peut-être, non, Socher avait. Le mari, il n'est qu'un Socher sur les biens de la femme pendant la période du mariage. Et à ce moment-là, puisque il est un Socher, et qu'avant c'était une Srirut, avant le mariage, elle était déjà en Srirut. Donc, Srirut, Ked Kaima, Kaima. La même Srirut qui avait cours avant qu'il l'épouse, elle se poursuit après qu'il l'ait épousée. Et donc, il n'y a pas de nouveau contrat. Et donc, c'est une Srirut chez l'Aube Baalim, qui a commencé chez l'Aube Baalim et qui se poursuit chez l'Aube Baalim, puisque il n'y a pas de nouveau contrat. Et en tant que Socher, le mari, il restera responsable des obligations du Socher chez l'Aube Baalim envers la femme. Agmara maintenant refute cette dernière explication de la question de Rami Bahama. Elle dit, Maïshana, quelle différence de Ishoel avait que si on admet que le mari est Shoel, alors tu considères que c'est un nouveau contrat. Et tu dis que le nouveau contrat de Shoela Bebalim, Mafkara Srirut Shelo Bebalim, vient annuler l'ancien contrat qui était avant le mariage, qui était une Srirut Shelo Bebalim. Issocher Mami Havé. Si on admet que le mari, il est Socher sur les biens de la femme de par le mariage. Titi Srirut Bebalim, on pourrait aussi dire que le nouveau contrat de Srirut Bebalim qui se scelle avec le mariage, Tipok, qui vient annuler Srirut Shelo Bebalim, la Srirut précédente, qui était une Srirut sans les services de la femme, puisqu'elle n'était pas encore mariée, qui a précédé le mariage. En d'autres termes, l'Agmara dit que Rami Bahama ne peut pas se poser raisonnablement la question de savoir si le mari est Shoel ou Socher, parce que ça ne change strictement rien qu'il soit Shoel ou Socher sur un bien que la femme aurait loué avant de se marier. Puisque avec le mariage commence un nouveau contrat qui annule le contrat précédent et qui fait du mari un shoel ou un socher bebalim qui est de toute façon dispensé de rembourser à la femme qui est propriétaire. Et donc il faut se tourner vers une autre explication de la question de Rami Bahama, de savoir est-ce que le mari est shoel ou socher sur le bien de sa femme. Et nous trouvons actuellement au Daf Tsaidi Vav Amud Bet, au milieu de la sixième ligne à partir du haut. La Gemara cherche à comprendre une question que Rami Bahama il a posée, et après plusieurs essais, elle nous propose l'explication suivante. Et là, alors, qui kamu bayale le Rami Bahama. Rami Bahama, ce qui se demandait, kegon, c'était dans le cas des agra ihi param alma, lorsque la femme, elle a loué, elle a payé pour utiliser une vache à une tierce personne. Avant de se marier, Vahadar Nazba. Et après, elle s'est mariée. Et en se mariant, elle met automatiquement tout ce qu'elle a comme bien à la disposition de son mari, y compris les objets qu'elle a loués. Et dans une situation similaire, la Gemara nous rapporte plus haut, Daf Lamed Hei Amud Bet, une discussion entre Rabbi Yossi et Rabbanan concernant celui qui a loué, qui a payé pour utiliser un objet, qu'il a prêté. Donc, dans un décor à trois personnages comme celui-là, les Rabbanan disent que le Shoel, le troisième personnage qui a emprunté, il est redevable uniquement envers le deuxième, celui qui a eu la gentillesse de lui prêter. Et donc, s'il arrive un cas de force majeure, il doit rembourser au deuxième personnage, à celui qui a eu la gentillesse de lui prêter. Et comme le deuxième personnage, lui-même, il n'était qu'un socher, il n'était pas un shoel, il pourrait garder l'argent que le shoel lui remet, et vis-à-vis du propriétaire, il s'acquittera en disant qu'il est arrivé un cas de force majeure et que, comme tout bon socher, toute personne qui paye pour utiliser, il n'a pas à rembourser dans une telle situation. Ce qui n'est pas du tout l'avis de Rabbi Yossi. Ce que Rabbi Yossi pense, que le shoel, lorsque il rembourse en cas de force majeure, il rembourse pas seulement pour la gentillesse qu'on lui a fait de lui prêter, il rembourse essentiellement parce que le propriétaire, il a mis à sa disposition un capital. Or, dans notre situation, à trois personnages, celui qui met son capital à la disposition du shoel, c'est pas le deuxième personnage, c'est le premier, c'est le propriétaire. Maintenant, celui qui fait la gentillesse de prêter, c'est le deuxième, parce que c'est le deuxième qui avait loué sur ses propres deniers. Et c'est sur les jours de location qu'il a eu la gentillesse de prêter au troisième personnage. Mais, pense à Biosé, ces quelques jours de location qui appartenaient au deuxième personnage, au socher, ne sont pas suffisants pour lui faire acquérir le bénéfice du remboursement du shoel. Revenons maintenant à la shoela de Rami Bahama. Et donc, la Gemara dit Aliba des Rabbanan. D'après l'avis des Rabbanan, d'Amré, shoel, Shalem, la socher. Que de toute façon, le shoel, le troisième personnage, il n'est redevable que envers le deuxième personnage. Donc, dans notre cas, le mari, au plus, il sera redevable à la femme. Et donc, l'oti be'elach, tu n'as rien à te demander. Devadai, she'ela, de ba'alim, hi. Parce que de toute façon, comme d'après les Rabbanan, le troisième personnage, l'emprunteur, il n'est emprunteur que vis-à-vis du deuxième, de celui qui a eu la gentillesse de lui prêter, donc, dans notre cas, c'est la femme. Et que la femme, elle est au service du mari, comme le mari est au service de la femme. Donc c'est de toute façon une shoela bebalim pour laquelle l'emprunteur y reste dispensé totalement. Kiti be'elach. Par contre, tu peux te demander, Aliba de Rabbi Yossi, de Amar Tahazor para la be'alim harishonim. Rabbi Yossi qui pense que l'emprunteur, il a des comptes à rendre au véritable propriétaire. C'est à lui en réalité au véritable propriétaire qui l'a emprunté son capital. Et si il paye en cas de force majeure, c'est au Baalim Arishonim, au propriétaire d'origine, qui doit payer. Alors dans notre cas, où le troisième personnage c'est le mari, Mike, qu'est-ce qu'il faut penser ? Est-ce que le mari, sur tous les biens qu'il reçoit de sa femme, que sa femme met à sa disposition, est-ce que c'est un Shoel ? Auquel cas, il devrait rembourser en cas de force majeure au véritable propriétaire, la personne de qui la femme est allouée. Au Socher Ave, ou bien, va-t-on dire que les Chachamim ont donné au mari le statut de Socher, de celui qui paye pour utiliser, puisque c'est pour compenser l'obligation pour le mari de racheter sa femme lorsqu'elle est captive. En compensation, ils ont autorisé le mari à utiliser les biens de la femme pendant toute la période du mariage. Et si le mari, il a le statut de Socher, donc en cas de force majeure, il n'a pas à rembourser l'animal au propriétaire. Maintenant qu'on a bien saisi le problème que Rami Bahama a posé, alors Rava y répond. Amar Rava, Baal, lo shoel ave, velo socher ave. Aujourd'hui, après la Takanadusha, le mari, il n'est ni shoel, ni socher. Et là, mais carrément, lo kher ave, c'est comme un propriétaire, comme quelqu'un qui a acheté les biens de sa femme pendant toute la période du mariage. Comme on le voit des propos de Rabbi Yossé Bar Bechanina, d'Amar Rabbi Yossé Bar Bechanina, Be'usha Itkinu, dans la ville de Usha, lorsque les Chachamim étaient réunis là-bas, Itkinu, ils ont institué que Aisha Shemachra Benirse Milog, la femme qui, pendant la période du mariage, elle a vendu des biens de sa dot qu'elle avait mis à la disposition du mari de par les lois du mariage, et même si elle les a vendus sans vouloir léser son mari, c'est-à-dire qu'elle a précisé à l'acheteur que pendant tout le temps de ce mariage, le nouvel acquéreur ne pourra pas utiliser les biens qu'elle vend puisqu'ils sont déjà réservés au profit de son mari pendant toute la période du mariage. Malgré tout, les Chachamim ont annulé en partie cette vente, donc, si bien que Meta, si elle meurt avant son mari, Abaral Motsi Biyad Halekuchot, le mari pourra faire valoir son droit à hériter sa femme, exactement comme si elle n'avait pas vendu. La raison de cette akana, elle vient de ce que la possibilité que la femme elle avait de vendre ses biens, les biens de sa dot, pendant la période du mariage, c'était une source de tension, de conflit. Parce que la femme, elle est tentée de vendre si elle a besoin d'argent. Et le mari, il pourrait se sentir moins lié, moins responsable envers une femme qui n'hésite pas à spolier, d'une certaine manière, son droit à l'héritage. Et donc, d'après les nouvelles dispositions de la Takanadusha, la question de Rami Bahama n'a plus d'objet, puisque le mari, il dispose des biens de la femme comme s'il les avait achetés. Et donc, si il arrive un cas de force majeure, évidemment, il n'aura pas à rembourser à personne. Tosfot fait remarquer quand même que, malgré tout, le mari, il sera responsable des dégâts qu'il occasionne sur les biens de la femme par négligence. Une nouvelle chose là maintenant, Ba'er Ami Bahama, Ba'al Benirsi Ishto Mi Ma'al. Un mari, lorsqu'il épouse sa femme, on a vu que automatiquement, il devient, de par les lois du mariage, propriétaire pendant tout le temps du mariage des biens de sa femme. Et si parmi ces biens, il y avait des objets que la femme elle avait offerts au Hekdesh, et donc, par le mariage, les biens qui sont à Hekdesh, ils deviennent propriété du mari. C'est comme si la femme les avait vendus au mari. Et vendre des biens du Hekdesh, c'est une forme de profanation. Et donc, la Gemara demande, est-ce qu'il y a profanation du Hekdesh et qui est tenu pour responsable de cette profanation. Rabbi a répondu, mais Manimol, mais qui va faire profanation? Nimol Baal, le mari, il peut être tenu pour responsable de la profanation? Mais des terani chale des likne. Dans le mariage, le mari est intéressé à faire seulement ce qui est permis. Issoura, l'onir chale des likne. Tout ce qui peut être une interdiction, une profanation, évidemment, ça n'intéresse pas de l'acquérir. Timolihi, tu voudrais que la femme, elle transgresse, elle soit elle responsable de la profanation, mais elle, déhéteranami, l'onichala, délikne. Si on lui demande son avis, elle ne sera même pas d'accord à ce que le mari, il ait quoi que ce soit de ses biens gratuitement à sa disposition. Et c'est à son corps défendant qu'elle accepte de se soumettre aux lois du mariage, puisque c'est là la volonté des législateurs. Reste à penser que Nimol ou Beddin, peut-être que le Beddin qui a mis en place cette takana, c'est eux qui sont tenus pour responsables de la profanation. Mais ça non plus, ça ne tient pas. Kiavdou Rabbanan Takanta, lorsque les Rahamim ont institué cette loi, le mari, il est comme un acheteur, comme un acquéreur des biens de sa femme pendant la période du mariage. L'hétéra, c'est uniquement pour ce qui est permis qu'ils ont institué. Lui, sera l'Oavid, Rabbanan Takanta. Évidemment, pour tout ce qui est interdit, tout ce qui constitue une profanation, les Rahamim n'ont pas institué. Et là, Amarava, donc Rava, il a dit, c'est évident que Baal, Maal, Tirshiotsi, par le simple fait de se marier, personne ne transgresse. Et s'il y a profanation, elle intervient seulement l'irsheyotsi, seulement lorsque le mari il va sortir, il va vendre ou utiliser les biens ekdesh que la femme met à sa disposition. Dans ce cas-là, il y aura profanation. Midé dehava, de même que c'est le cas pour n'importe quelle personne, amotsi, qui dépense ma'ot ekdesh, des pièces qui avait été offert au Ekdesh, le Khoulin, pour un usage personnel, profane, que là il fait profanation des pièces et bien sûr il devra apporter un korban. Iba yaleu. On s'est posé la question suivante. Kechash basar, si l'animal s'est amaigri, mihamat melacha, à cause de l'effort du travail qu'il a fourni auprès de l'emprunteur mâle. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que l'emprunteur doit rembourser cette moins-value ou pas? Amarle Aoum et Rabbanan. Il y a un des Chachamim qui a répondu, Rav Chilkiya Bare Davav Yashme, c'est ainsi son nom. Miklal Dechi Meta, Mihamat Melacha, Michayev. La manière dont tu poses la question, que juste il a maigri, ça voudrait dire que si l'animal était mort à cause de l'effort du travail, c'est évident pour toi que l'emprunteur doit rembourser. Mais nima les que l'emprunteur dise au propriétaire, lave le hukma berita shilta, c'est pas pour le mettre dans une boîte pour le conserver que je l'ai emprunté, c'est pour l'utiliser. Donc quand tu m'as autorisé à l'utiliser, ça voulait dire avec toutes les conséquences qui sont inhérentes à l'utilisation normale de la chose que tu me prêtes. Et là, alors, Rava dit, c'est pas la peine de mentionner que l'amaigrissement de l'animal à cause du travail que l'emprunteur s'est dispensé d'embourser est là, mais afilou meta mechamat melacha, même si l'animal est mort à cause de l'effort qu'il a fourni en travaillant normalement pour l'emprunteur, Nami Patour. Là aussi, il sera dispensé des amarlés parce que l'emprunteur, il va dire au propriétaire, lave l'ukma brilta shilta. C'est pas pour la garder dans une boîte que je l'ai emprunté, c'est pour l'utiliser normalement. Et cette utilisation que tu m'as autorisée, avec ses conséquences, tu me l'as donnée. Et donc, je ne vais pas à te rembourser ce que tu m'as donné. Aou Gavra, cet homme-là, Deshaïl Nagam Havre, qui une fois, il a emprunté une hache de son ami, Idbar, elle s'est cassée. Atal Kame Derava. Il est venu devant Rava, Amarle, il lui a dit, Zil Aiti Sade, va, amène des témoins, des lafshanit be, que tu n'as pas changé par rapport à l'utilisation normale de cette hache, mais pas terre, et tu seras dispensé de rembourser. Bien que normalement, le chômeur qui a une raison de dispense, qui est dans une situation où il est dispensé de payer, il n'a pas besoin de faire la preuve de ce qui est arrivé, il suffit de jurer que tout s'est passé comme il le dit. Malgré tout, quand il est dans un milieu où il est évident qu'il y avait des témoins, il a l'obligation de faire la preuve, amener des témoins, que tout s'est passé comme il le dit. Enfin. La Gemara poursuit, elle dit « Ve'i lika sa'ade mai » s'il n'y a pas de témoins, et donc qu'il est obligé de payer, de quelle manière est-ce qu'il devra rembourser? Alors, on va avoir une discussion, Tashma, bien écoute, Yahou Gavala de Sha'il Narga Mehavre. Cet homme qui avait emprunté une hache de son voisin, le Idbar qui s'est cassé. Et là, c'était une négligence qui l'obligeait à payer. Atal Kame de Rav. Et venu devant Rav, Marle, Rav lui a dit Zil Shlim le Narga Mahalia. Va et rembourse lui une hache en état de fonctionnement. Alors ces deux Chachamim lui ont répliqué à Rav. On passe maintenant au Daf Tzadizain Amoud Aleph.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi quotidiennement en vidéo.